Bonjour à tous, bienvenue, bonjour les devs, bienvenue sur cet épisode de Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA, et on fait un épisode spécial architecture logicielle, ça veut dire archi-logiciel, on va dire. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et petit épisode architecture où on va parler de tous ces concepts-là, de tous ces concepts à mettre en place en amont, on va essayer de raisonner, de réfléchir comment on va justement structurer toute notre appli, parce que c'est un peu difficile de changer d'architecture. Si on s'est trompé dès le départ, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, ce n'est pas de brosser, de vous donner toutes les stacks techniques. Ce n'est pas le but. C'est de bien comprendre l'architecture, les grosses briques. Donc, ça va être un épisode où on va parler de concepts. Ça va être très, très, très abstrait. On va essayer de mettre ça et de faire quelque chose le plus concret et de ramener ça à avec des exemples, mais je pense que c'est hyper intéressant en tant que de dev de pas se tromper quand on architecture notre logiciel, quoi.
Ouais. C'est, alors moi, quand j'étais à l'école, je me souviens, j'aimais pas les cours théoriques. Hein, j'étais plutôt donc là pour le coup, c'est on va pas coder, on va pas montrer du code, on va parler vraiment de théorie. Mais c'est hyper important. C'est vrai que c'est hyper important quand on lance on a le projet de faire un développement. De se poser dès le début, en fait, au lieu de plonger dans le code directement. Allez, vas-y, je vais coder ci, machin. Je vais prendre cette stack, machin. Finalement, la stack, on s'en fout, en fait. L'important, c'est de se poser et de décider comment on va faire l'archi, en fait, de son système pour qu'il soit durable dans le temps, en fait. Voilà.
Exactement. Exactement, parce que se tromper, on peut se tromper sur un langage ou les choses comme ça. On peut changer des briques. Par contre, si on s'est trompé sur l'archi, ça va être très, 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 très difficile. On va parler de base de données, on va parler d'API, on va parler de blocs. Mais tout ça, en fait, c'est assez abstrait. Et on va essayer de vulgariser un peu tout ça. Est-ce qu'on pourrait déjà... Allez, on commence. C'est quoi une bonne archi déjà?
C'est une archi bien faite.
C'est la question un peu piège où en fait on pourrait. Je pense qu'il y a autant de manières de faire que de développeurs qui pourraient.
La bonne réponse, ça serait une archi qui correspond à ton projet, j'ai envie de dire.
Exactement. Donc en fait, la bonne réponse, ça serait ça dépend, quoi. Et d'où l'intérêt en fait de se poser des questions, de dire ok, ça dépend, mais ça va dépendre de quoi. Et c'est en fait où il faut admettre en fait que potentiellement en fait on va avoir différentes archis, on va avoir différentes manières de faire. Chaque en fait structure qu'on va apporter va avoir des avantages et des inconvénients, et en fait ça va être à nous en fait de en tant que développeur de faire ces concessions là et de créer en fait quelque chose qui répond aux besoins. Mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi.
Le premier truc, c'est quoi? C'est de réfléchir, d'analyser le projet, en fait, de voir quels sont les besoins, tout ça.
Exactement. Et en fait, une fois de plus, nous, en tant que développeurs, notre job, en fait, c'est de vraiment se poser des questions, de dire et d'aller voir notre client et de lui poser des questions et de répondre aux besoins. Et donc, moi, je vois déjà, par notre expérience, on voit que quand même souvent, et comme tu l'as dit, souvent, on se jette sur notre clavier, on construit usines à gaz, on fait des trucs surdimensionnés. Ça scale à l'infini et tout. Ouais, mais en fait... quel est le besoin? Quelle est la vision business? Et si on est en face d'un industriel avec des entrepôts, des millions de références, est-ce qu'on va amener la même solution à notre vendeur du coin qui veut vendre 3 huiles essentielles sur Internet? Tu vois? Et donc, en fait, on ne peut pas amener la même solution technique que si on ne prend pas en compte en fait les besoins du client. Et donc une fois de plus, je pense qu'on le dit largement assez sur le podcast, mais partir du métier en fait, partir du métier et récupérer toutes ces informations business pour en fait évaluer la maturité du projet et la fiabilité en fait des informations que ton client va te donner. Par exemple, soit OK, on est une startup, on a pour objectif de vendre ou d'avoir tant de users. OK. Donc, soit par projection, dans ce cas-là, OK, on va calibrer, on va architecturer pour avoir le temps de users par mois, par seconde, par jour, ou par tout simplement observation. On parlait en off tout à l'heure d'un retour d'expérience où moi, le client est venu en disant « Moi, ma contrainte, c'est ça. Je fais tant de chiffres d'affaires. J'ai tant de commandes par jour sur mon e-commerce dédié pour les professionnels. » Bon, bah, en fait, on peut largement architecturer basé sur ce qu'il a déjà observé avec les contraintes qu'il a. Et à partir de là, en fait, on peut largement construire. Ouais. Donc, la première brique, en fait, c'est écouter et partir du besoin et pas partir de notre tête.
Ouais, alors après, il y a un truc qui est, tu vois, il y a deux choses là, tu vois, c'est, tu as le client qui a des contraintes, qui a déjà des contraintes. Donc là, c'est facile parce que tu sais où il en est, tout ça. Tu peux déjà réfléchir à un archi qui va supporter cette contrainte et évoluer. Donc, tu sais que ça fonctionne. Et après, tu as le mec qui arrive avec sa super idée de startup qui se dit « Ah, je vais devenir millionnaire, machin, bidule. » Et en fait, tu sais pas vraiment si ça va marcher ou pas. Alors, il faut prévoir qu'éventuellement, ça marche. Mais au début, il faut commencer petit, machin. Donc, ça, c'est moins évident, en fait, en général.
Exactement. Exactement. Et donc, c'est est-ce que tu t'ouvres des portes pour le futur ? Est-ce que tu te fermes des portes pour le futur ? À quel moment tu mets en système en fait ce système de scale si tu veux et souvent les startups on se concentre déjà sur le besoin, sur répondre aux problèmes et après sur une mise à l'échelle et donc la chronologie est hyper importante par contre
c'est ça et puis parce que le deuxième cas du mec qui a une startup et qui veut être millionnaire. L'erreur à ne pas faire, c'est de surdimensionner, de penser trop à scaler, machin, tout ça, et du coup de se concentrer que là-dessus, alors que c'est une erreur en fait. Déjà,
exactement. Tu perds du temps business. Ouais. Et nous, en fait, en tant que dev, on a souvent une envie de faire les choses nickel du premier coup, mais ça ne marche pas. On n'y arrive jamais. Et donc, en fait, il faut admettre que notre logiciel, il va être bon de 0 à 10. Par contre, de 10 à 100, il nous faudra d'autres briques. Et de 100 à 10 000, en fait, eh ben, ça sera une autre architecture. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours en train de refaire des V1 et des V2 ou des V3 parce qu'on change l'architecture. Et donc, de manière un petit peu plus globale, et si on prend encore un petit peu plus de distance sur notre architecture, on pourrait résumer en fait, l'intégralité de notre logiciel, en fait, sur trois concepts hyper importants qui sont les trois actions principales qu'on va faire. En clair, on va transporter de la donnée, on va stocker de la donnée et on va transformer de la donnée. Et là, tu vas me dire, Alex, c'est pas très compliqué.
Tu reviens sur les DB, tu ne vas pas nous reprendre la tête avec la DB.
Non. Promis, on ne va pas parler de DB, même si on va en parler un petit peu. Mais dans l'idée, en fait, ces trois concepts-là, il faut comprendre que ces trois concepts-là interagissent tout le temps. Et ça va être à nous, en fait, de bien architecturer ça. Quand on parle de transport de données, pour toi, ça t'évoque quoi ?
Transport de données ? Je ne sais pas. Tu veux dire un formulaire qui se remplit ou une commande et puis il faut que ça aille dans un endroit pour être stocké, c'est ça que tu veux dire ?
Ouais. Alors ça, en fait, c'est le premier niveau. On est complètement d'accord qu'on va avoir un transport de données entre l'interface graphique et le serveur. Donc, souvent, c'est une API, tout simplement. En fait, on va avoir une API. Ouais. OK, on va transporter de la donnée. Mais on peut voir aussi ça de manière sur notre machine, en fait, du transport de données entre le CPU, la RAM et le disque. Oui. Tu vois, entre le front, entre le front et le back, évidemment, tu vois, mais aussi entre notre réseau, entre tous nos systèmes, entre si on a différents Docker par exemple, et bah notre réseau de toutes nos machines, en fait, comment ils vont avoir et transporter toutes ces informations là, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est transport. Après, on va avoir tout ce qui est stockage. Donc là, je suis désolé, Patrick, on va être obligé de parler de DB.
Ah,
mais en fait, comment on stocke la donnée ? Est-ce qu'on va stocker de la donnée de manière définitive, temporaire ? Est-ce que ces données, on va les structurer dans quelle base de données ? Est-ce que c'est du NoSQL, du KV, enfin du clé valeur, ou est-ce que c'est des fichiers, en fait? Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on stocke ça sur des S3 ou un stockage de blob par exemple. Mais on va aussi avoir on va stocker de l'information de manière temporaire. Je pense par exemple aux événements analytics ou à des choses comme Kafka ou des choses comme ça. Ça va être des événements qu'on va stocker, alors qu'on va transporter et stocker pendant une période X. Et donc, en fait, ça, c'est un concept. OK, on va stocker de l'information.
Ouais, il y a différents besoins. De toute façon, c'est le besoin qui va faire que tu vas prendre tel ou tel DB, comment tu vas stocker. Je pense, par exemple, tu sais, sur les services à la demande, comme type Netflix ou des trucs comme ça, quand tu regardes un film, à un moment donné, tu vas arrêter. Et il sait, ou par exemple, ta connexion va couper et il sait à quel moment ça a coupé, tu vas reprendre tout ça. Et ça, c'est stocké, en fait. Le timestamp est stocké.
Quelque part.
Voilà, petit à petit. Exactement. Au fur et à mesure que tu lis la vidéo. Voilà. Et donc, ça, c'est des bases de données spéciales qui vont stocker ça et tout.
Ouais.
Donc, voilà.
Mais c'est
ça dépend le besoin. Ouais.
Et exactement. Et c'est là où ça va être super intéressant parce que tu vas pouvoir, en fait, te dire OK, pour telle fonctionnalité, j'ai besoin de stocker cette information-là. Quel est le meilleur endroit pour la stocker, quelle est la manière la plus efficiente,
la meilleure DB, etc.
Exactement. Deuxième point, stocker la donnée. Et le troisième concept, la troisième action, tout simplement, c'est transformer de la donnée. Transformer de la donnée, déjà, on le fait quand tu disais tout à l'heure, de mon formulaire à mon API, en fait, j'ai transformé de la donnée en interface graphique. Et je l'ai transformé en JSON, quoi. Tu vois, alors, si mon API est JSON et machin, tu vois. Mais je vais transformer de la donnée. Pareil, quand je vais valider de la donnée, que ça soit en GraphQL ou si je fais du RPC ou du type, ou en fait, si je vais typer mes informations, en fait, je vais transformer pour que ça soit clean, pour que, en fait, au moment où je reçois ces informations, ça soit hyper clean. De la même manière, en fait, je vais transformer ma vidéo YouTube, je vais l'uploader en 4K et YouTube, en fait, va la transformer en 180, en 720, en 480 pour les portables. Donc, en fait, je vais transformer toute cette donnée-là.
Tu rentres aussi les images dans tout ce qui est données aussi, transformation d'image,
absolument, d'image, exactement. Je vais la transformer à la volée ou je vais la stocker et exactement. Et pareil sur le stockage, on n'a pas parlé des CDN et des choses comme ça, mais on y reviendra. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Mais sur la transformation aussi, on va avoir en fait l'exploitation des données intelligibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, je vais avoir plein de lignes de commandes pour un e-commerce, par exemple. Je vais avoir plein de lignes de commandes, sauf que au moment où je vais faire un dashboard, en fait, je vais lire ces données-là et je vais les dire, OK, le panier moyen, c'est ça, le nombre de commandes, c'est ça. Tout simplement, c'est aller extraire ces informations-là les transformer pour que visuellement, en fait, on ait une interface qui soit intéressante. Donc, ouais, je vais transformer ces données-là. Et donc, ça, en fait, c'est des briques conceptuelles, quoi.
Ouais, tu as aussi, par exemple, tu vas avoir un e-commerce, tu as un logisticien, tu vas devoir lui envoyer sous un format particulier l'envoi des commandes, etc. Donc, il faut les transformer, machin. Aussi.
Exactement. Et c'est là où tu dis, OK, en fait, est-ce que cette transformation, elle est temporaire? Est-ce qu'elle est juste... est-ce que je vais la stocker comme ça ou je vais juste la transformer, je vais lui envoyer et puis basta, quoi. Et en fait, cette notion de toujours ces trois actions, transport, stocker, transformer, en fait, là, tu vois, on est très, très, très loin de est-ce qu'on fait du Rust ou est-ce qu'on fait du Go ? Est-ce qu'on fait du PHP ? Est-ce qu'on met du Laravel ou on fait du WebSocket avec machin ? Tu vois ? Et en fait, ça nous permet de prendre un tout petit peu plus de distance et de relativiser et de bien comprendre la définition du problème qu'on résout, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Bah, souvent, quand tu... Justement, quand tu fais cette phase d'étude du besoin plus de l'archi, et ensuite, ensuite, tu fais le choix de stack, etc., qui sont adaptés à ton truc. Voilà. Et ça, c'est dans le bon ordre, en fait, et pas l'inverse, tu vois. Je choisis ma stack et après, je m'adapte, en fait, ou je transforme ma stack parce que je veux que ce truc fasse tout, en fait.
Exactement. Voilà, je suis persuadé que tu connais l'expression « quand tu as un marteau dans la main », en fait, tous tes problèmes sont des clous, quoi. Tu vois. En fait, non, tous tes problèmes se résolvent avec des clous, tu vois. Parce que, en fait, le seul truc que tu as dans ta main, bah, c'est un marteau. Et en fait, l'idée, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour dire, OK, bah, pour le transport, la meilleure brique techno qu'on pourrait faire, c'est ça. Est-ce que c'est celle-ci que je dois mettre en place ? Bah oui. OK, il faut que je monte en compétence là-dessus, ou on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que après, il y a aussi un concept qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est tu dois aussi composer avec ton équipe de foot, quoi. Tu vois, c'est-à-dire OK, tu vas jouer un championnat, mais il va falloir que tu joues avec l'équipe qui est sur le banc, quoi. Et donc, il va falloir que tu composes avec tout ça. Donc tous ces choix techno, en fait, ils vont arriver après. Mais tu ne peux pas te tromper, c'est sur le transport, le stockage et la transformation. Ça, tu n'as pas le droit de te tromper. Parce que tu ne peux pas me dire que c'est lié à ton équipe, à tes compétences en interne et tout ça.
De toute façon, ça on peut témoigner tous les deux, mais combien de fois on a des demandes de projets où ils ont déjà choisi... stack et tout, bien avant de savoir ce qu'ils voulaient faire ou le besoin, quoi que ce soit. Et on te dit, je veux utiliser ça. Et, ok, d'accord. Bon, okay. C'est quoi votre besoin ?
On l'a tous fait. Et la question, c'est, ok, qui a décidé de ça ? Le board. Et il y a qui au board ? Ok, c'est des mecs, c'est que des marketeurs ou du business, tu vois.
Ils ont l'habitude de ça, donc ils veulent garder ça.
C'est un non-sens total. On est complètement d'accord. C'est malheureusement une
c'est une réalité. Mais c'est souvent comme ça. Hein. La plupart des projets, c'est ça. Et après, pour leur faire autant de raisons, c'est compliqué.
Après, tu leur dis, écoutez, si vous m'embauchez, en fait, c'est parce que j'ai des compétences, tu vois. Et ces compétences-là, en fait, si vous n'êtes pas en capacité... moi, mon devoir de conseil, c'est ça, quoi. Donc, ce que vous faites là, c'est n'importe quoi ou c'est pas bien. Et après, si on peut pas travailler ensemble, c'est pas gênant. Mais ça, c'est une dimension business, on va dire. Exactement. C'est pas grave. Donc, une fois qu'on a bien compris ces concepts-là, OK, on va pouvoir, en fait, passer à la deuxième grille de lecture, en fait, qui est quels sont, en fait, les prérequis fonctionnels et les prérequis non fonctionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, les prérequis fonctionnels, c'est vraiment, pour le coup, un cahier des charges ou un cahier de features. C'est-à-dire, OK, le client, il va se mettre sur telle interface, il va cliquer là et ça va faire, ça va générer ce genre de résultats et j'attends d'avoir sur l'autre page d'autres résultats. Ça, c'est l'approche très, très fonctionnelle. Et donc, il va nous falloir en fait construire comment on va résoudre ce problème-là avec des briques techniques. Et la partie non fonctionnelle, bah, c'est la partie justement qu'on ne voit pas. Donc, ça va être la scalabilité, la performance, la disponibilité, le nombre de requêtes par seconde. Donc, ça, c'est tout ce qui est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, la partie non fonctionnelle. Donc, la partie fonctionnelle, elle s'organise en fait. Souvent, c'est un peu toujours la même chose. On se rappelle transport, stockage, transformation. Mais transport, bah, la chose la plus basique, c'est quoi? C'est l'API, on est d'accord?
Mmh. Ouais.
Et donc, en fait, bah, ça veut dire qu'on va mettre un front, donc on va pouvoir designer. Et pour le coup, je vous invite vraiment à essayer de visualiser quelque chose vraiment de manière très, très graphique où on met juste un carré et on dit OK, front, un carré, API, une flèche. Mmh. OK, l'API, elle va dans le du front, elle va au back. OK. Et cette API-là, en fait, elle va, si on prend notre exemple, par exemple, de YouTube, OK, je vais me connecter. OK. Donc, ça veut dire que j'ai une brique d'authentification. Brique d'authentification. Donc, j'ai une API qui va gérer mon authentification. Est-ce qu'elle est synchronisée? Est-ce qu'elle est monolithique? Est-ce qu'elle est en microservice? Ça, pour l'instant, on peut pas le savoir parce qu'on n'a pas d'autres informations. Mm. Mais côté fonctionnel, on va avoir une brique d'authentification. On va avoir une brique pour envoyer, je veux uploader ma vidéo. Donc, je vais avoir en fait une brique pour uploader ma vidéo, donc une API pour uploader. Et cette vidéo, il va falloir la stocker. Donc, je vais avoir un stockage type fichier pour enregistrer les données. Sauf que ma vidéo, elle va avoir un titre, elle va avoir des informations, des catégories, des commentaires, des choses comme ça. Donc, je vais avoir une DB. Je vais avoir enregistrement d'une DB. OK. Et troisième point, il va falloir que cette vidéo, en fait, elle soit optimisée sur les différentes dimensions. Bah, ces différentes dimensions-là, je vais avoir en fait un worker ou quelque chose, un service, en tout cas une brique qui va en fait transformer de la data. OK, ça c'est, on va dire, la vision assez logique, basique. Mm. Et en fait, en visualisant en fait tout ce process-là, en fait, on dit OK, bah, il nous faut une API pour ça, une API pour ça, une API pour ça, un worker pour faire ça. Quelle est la meilleure stack techno pour faire ce système-là. Et on va pouvoir passer en fait au tamis comme ça toutes les fonctionnalités et on va construire en fait notre architecture basée sur ces grands concepts-là. Et à chaque fois qu'on utilise en fait une nouvelle brique, eh ben, on la visualise et on la met dans ce diagramme ou ce flow, on peut appeler ça comme on veut. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour faire ça, mais ça va nous permettre en fait d'avoir une trace de toutes ces briques techno en fait qu'on est venu rajouter. Et je vous invite fortement à le faire, non pas avec en mettant le nom du langage ou du framework ou en fait il faut vraiment que ça soit totalement agnostique pour se poser les bonnes questions après. Ouais. Dans un deuxième temps, de quelle est la meilleure techno qui répond à ce problème-là.
C'est clair. Oui, de toute façon, t'as ça, tu peux le faire même sur un papier avec papier crayon, il n'y a pas besoin d'ordi, quoi que ce soit. Tu te poses sur une table, tu prends un papier, un crayon et tu réfléchis. Tu fais des carrés et puis des flèches et puis voilà.
Et sans faire l'érudit et essayer d'impressionner le client, ce n'est pas le but, mais le fait de l'impliquer, en tout cas basé sur l'expérience que j'ai, le fait de lui montrer l'architecture, de dire ok, avec des mots hyper simples, toi ça t'oblige à vraiment faire de l'abstraction plus, et surtout de te dégager du jargon technico-technique. Tu lui dis, bah, voilà, il y a une interface, vous arrivez sur votre ordinateur, il y a une interface, elle va communiquer avec un serveur, ce serveur, il va gérer l'authentification, il va gérer la base de données, là, on va avoir un autre serveur qui va traiter la donnée, tout ça. En fait, tu lui expliques comment tu vas faire ton métier et ça permet de simplifier, de vulgariser et un client... Alors, ça, c'est pareil, hein, mais c'est un client qui comprend ce que tu fais. C'est rare, en fait, qu'il n'apprécie pas.
Ça le rassure.
Exactement. Ça le met en confiance. Ça le rassure et c'est hyper important. Alors, c'est vrai que quand on est salarié, on s'en fout, mais quand on est à son compte, ça fait vraiment la grosse différence.
Non, c'est important. Ouais. Et puis, ça permet aussi de ne pas oublier des choses. Si tu lui expliques, voilà, il y a l'authentification, machin, le stockage, on va transformer des trucs, les vidéos, par exemple, tout ça, tout ce que tu as expliqué là. Et lui, il va dire, mais est-ce que ça va faire ça? Ah oui, ça, on n'avait pas pensé. Ah oui, effectivement. Tu vois, donc ça permet aussi de rien oublier.
Yes. Et ça, c'est la partie où souvent, on est assez lucide parce qu'on sait faire. C'est très, très, très fonctionnel. Et on a plutôt l'habitude, nous, des développeurs, en tout cas créateurs de solutions, c'est plutôt facile de mettre ça en place. Par contre, toute la partie non fonctionnelle, tu vois, souvent, ça va être le boulot un peu des DevOps, tu vois.
Les barbus, là.
les barbus. Attends, pas de troll, les gars, pas de troll.
Mais là, les mecs à la cave au moins un.
la partie non fonctionnelle, c'est OK, comment on va déployer toutes ces solutions-là pour que toutes ces briques-là, en fait, passent certaines au tamis, si tu veux, de la scalabilité, de la performance. Et donc, le fait d'architecturer correctement, en fait, va nous permettre de passer en fait toutes ces prérequis et ce tamis un peu de non fonctionnel parce que en fait on a respecté toutes les bonnes pratiques et c'est important en fait quand on parle de scalabilité de comprendre en fait c'est une mise à l'échelle, c'est-à-dire ok, on va passer de 100 requêtes par on va de 100 commandes par jour à 4000 commandes par jour. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va souvent on monte de manière incrémentale et progressive, mais c'est de dire comment on va faire pour passer à l'échelle. Et si on a mal conçu et si on a mal programmé et on a mal architecturé les briques fonctionnelles, donc les briques qu'on utilisait tout à l'heure, et ben la mise à l'échelle va être très 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 difficile. D'où l'intérêt en fait d'essayer de faire bien du premier coup, même si on a vu tout à l'heure que c'était quasiment impossible.
Bah, c'est rare de faire bien du premier coup quand même. Faut être honnête.
Oui, c'est très présomptueux.
Toujours des erreurs.
C'est toujours présomptueux.
Ça, c'est clair. Par contre, tu as aussi le côté. Je te coupe. Tu peux avoir aussi le côté. Ton site fonctionne la plupart du temps correctement et puis ton e-commerce par exemple. Et puis quand tu envoies par contre une newsletter parce que tu as beaucoup d'inscrits, bah là ça fait monter en charge et il faut résister à cette charge et que le site continue à tourner. Puisque sinon, ça ne sert à rien d'envoyer une newsletter, tu vois. Donc, si les gens arrivent dessus et que le site ne marche plus.
Et donc, c'est voilà. De la disponibilité, exactement. Mais ça, en plus, on a tous connu des petites boîtes qui avaient un petit WordPress, tout. Ça, c'est le côté effet passe à la télé. Il y a un reportage sur le 20h sur cette petite boîte, tout. Ils ont un WordPress pour leur site internet. Il y a tout le monde qui se connecte dessus. Le serveur est en PLS, terminé, déni de service. Et tu as raté l'occasion de transformer ta pub, quoi. Et ouais. Et donc, comment tu fais pour garder une haute disponibilité? On va en parler. Quand on parle de scalabilité et de monter à l'échelle, en fait, il faut bien comprendre la définition. Il y a deux possibilités, en fait, d'une mise à l'échelle. En fait, on parle souvent de scalabilité horizontale et verticale. Ces deux concepts qui sont assez simples à comprendre, faut-il encore en fait les expliquer de manière assez simple. Et la scalabilité verticale, en fait, l'idée c'est on va mettre une plus grosse machine. Tout simplement. Si vraiment on simplifie, on va mettre une plus grosse machine, on met plus de machines, ça marche. Horizontal, en fait, on va mettre plus de machines, justement. En fait, au lieu d'avoir une plus grosse machine, on va mettre une deuxième machine, une troisième machine, ouais, une quatrième machine. Et en fait, chaque scalabilité, que ça soit horizontale ou verticale, a des contraintes spécifiques. Par exemple, si on met une plus grosse machine, donc on joue en verticale, on met une plus grosse machine, peut-être qu'elle va être surdimensionnée pour 90% du temps, mais dans les 10% du passage à la télé, elle va répondre aux besoins. Est-ce que c'est intéressant? Ou, à l'inverse, si on reprend notre exemple de YouTube, en fait, au moment où ce qui me prend de la ressource, en fait, c'est uniquement la transformation des vidéos. C'est ça qui me croque de la ressource. Et donc, est-ce que je vais être obligé de grossir ma machine uniquement pour cette fonctionnalité-là? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à sortir et à dégager cette fonctionnalité-là pour pouvoir la sortir sur une machine dédiée ou sur et pour pouvoir en fait jouer la scalabilité en horizontal, mettre plus de workers quand j'en ai besoin, quand je transforme, et comme ça cette fonctionnalité-là en fait je peux la scaler beaucoup plus facilement parce que c'est uniquement ça qui me prend de la ressource. Par contre, à l'inverse, sur de l'horizontale, il va falloir en fait que je distribue mes informations entre toutes mes machines. C'est-à-dire, quand j'ai 10 mecs qui se pointent, si j'ai 2 ou 3 machines, je vais faire, OK, les 2 premiers, ils vont sur la machine A, les 2 suivants, ils vont sur la machine B, les 3 autres, ils vont sur la machine C. Donc, ça veut dire qu'on va introduire un load balancer, ça veut dire qu'il va falloir que si, par exemple, j'ai un système de chat, en fait, vu qu'ils sont sur des machines différentes, ils vont pas partager les mêmes infos. Donc, il va falloir avoir un système pour synchroniser. Voilà, tout ça, c'est des complexités qu'il faut garder en tête, que de toute façon, la scalabilité, qu'elle soit verticale ou horizontale, c'est pas facile. Non. Et ça vient avec des contraintes.
On parlait juste avant l'épisode l'exemple des emails. T'es un gros spammer et t'envoies un million d'emails par semaine. À ce moment-là, est-ce que tu mets pas ça sur un service séparé, sur une machine qui va gérer que l'envoi des emails plutôt que d'être sur le serveur principal, etc. Donc,
absolument. Et d'où l'intérêt en fait de penser cette archi-là, de dire OK, on va le sortir. Comme ça, demain, si on a besoin de scaler, on pourra le faire de telle manière. On va jouer sur du vertical ou sur de l'horizontal. Autre point, et on sait toujours que dans notre business, ce qui est toujours compliqué, c'est la base de données. C'est souvent le goulot d'étranglement de tout notre système. Comment on scale de la DB? Pareil, toujours soit sur du vertical, soit sur de l'horizontal, avec des grands concepts. L'idée, ce n'est pas de vous expliquer comment on fait ça aujourd'hui, non. Mais c'est de, le concept de sharding, le concept de replicate, de, donc de sharding. En clair, je vais prendre ma base de données de A à M, ça va sur la base de données 1, et de M à Z, ça va sur la base de données 2. J'ai donc réparti en fait mes données sur sur deux bases de données, donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus light, ou sur 3 ou sur 4 ou sur 5. Ça amène plein de problèmes, on est d'accord. Ou ouais. Je replicate un pattern qu'on voit souvent aussi, c'est le master et le slave. J'envoie sur ouais. Une base de données qui va écrire et je vais lire sur une autre. Du coup, je vais répartir la charge.
Ouais. C'est souvent ça, ouais.
On est bien d'accord que là, c'est une vision ultra simplifiée. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée, c'est OK. Quelle technique je peux faire pour utiliser et en tout cas pour scaler la base de données, le sharding, le replicate, les master slave, c'est un peu le concept. Et le dernier après, point, ouais, vas-y, dis-moi.
Ouais, pardon. Souvent, ça, c'est des problèmes aussi qu'on peut avoir quand on a mal pensé la DB. On n'en a pas encore parlé, on en parlera sûrement après. Mais quand tu as mal pensé ta DB, des fois, elle peut demander beaucoup plus de ressources, alors que juste parce qu'elle a été mal pensée. En fait.
Ouais, après, on peut en parler maintenant parce que c'est totalement pertinent. Quand tu dis tu as mal pensé ta DB, tu penses surtout à la structuration de tes tables ?
La structure des tables, tout ça, des relations et des requêtes qui en découlent, forcément. Donc, des fois, ça fait péter ta DB alors que tu n'as pas forcément beaucoup de trafic, mais tout a été mal conçu dès le début. Des requêtes qui sont énergivores et du coup, tes DB, t'es obligé... Enfin, j'ai déjà connu ça, c'est pour ça que j'en parle.
Des index
voilà. J'ai déjà connu des index, par exemple, mais j'ai aussi connu J'ai bossé dans une boîte où on avait un système de forum qui n'était pas forcément bien pensé au niveau de la DB et qui demandait justement beaucoup de serveurs de DB pour... répondre à toutes les requêtes, et pourtant c'était pas un trafic de ouf, c'était 50 000 visites, mais voilà, juste parce que le système était mal pensé, quoi.
Bien structurer ses tables, et pareil, ça c'est le genre d'information, si tu t'es piné sur ta structure de table, c'est compliqué de la faire bouger, quoi. Très compliqué.
Ouais.
Et troisième point, on a déjà un peu abordé sur cette notion de scalabilité horizontale ou verticale, mais en tout cas, si tu as des process, donc que ce soit la transformation d'email ou la transformation ou l'envoi d'email ou de transformation de vidéo, bah, tout simplement, en fait, tu vas pouvoir mettre en place des workers qui sont dédiés à ça. Après, tu vas pouvoir mettre des systèmes de queue ou des choses comme ça, sous réserve, en fait, que ce service-là a été isolé et dédié. Par contre, s'il est intégré à ta grosse stack, bah, ça va être difficile. Tu vas être obligé de le sortir, quoi. Donc, beaucoup plus facile de le faire évoluer si, en tout cas, ce service... qui est potentiellement énergivore, difficile à scaler, ou qui est le goulot d'étranglement de tout ton système, bah, autant le sortir très très vite pour éviter qu'il soit aussi trop compliqué à scaler, quoi.
C'est primordial, ça. Par contre, ne faites jamais de la transformation d'image, de n'importe quoi, de document, tout ça, en live, en direct, quand quelqu'un l'upload, un truc comme ça. C'est toujours des queues, tout le temps. Il faut tout différer, quoi. Sinon, là, tu fais péter ton truc, et puis pour l'utilisateur, c'est pas agréable d'attendre et tout. Voilà.
Exactement. Et aujourd'hui, on a dans n'importe quel framework, il y a des systèmes qui gèrent très, très, très bien ça, quoi.
Toujours, ouais. Tous. Ils intègrent tous ça, en fait, ouais.
Donc, pour le coup, c'est totalement langage agnostique, framework agnostique, et quasiment tous ont ces systèmes-là. Faut-il encore l'avoir pensé dès le départ, pour éviter d'avoir ce type de problème-là. Une autre, justement, de manière de toute façon extrêmement liée, un autre point aussi sur ces prérequis, en tout cas sur ces, ces besoins non fonctionnels, bah, c'est la performance. Tu l'utilisais, tu évoquais le point tout à l'heure. Si on ne met pas ce système-là en place, si on ne met pas un système de queue, en fait, potentiellement, on va avoir des performances de merde et ça va dégrader l'expérience d'utilisateur. Et en fait, ce qu'il faut, moi, j'aime bien voir la performance sous un prisme en fait d'un tuyau. En fait, un tuyau de canalisation, en fait, il va avoir un diamètre. Donc, c'est le volume d'eau en fait, qui va pouvoir traiter en instantané. Donc, pour nous, dans notre jargon, ça va être le volume de requêtes, le volume de queries qu'on va pouvoir absorber, le nombre de terabits qu'on va pouvoir traiter en live, donc en instantané. Et après, en fait, on va avoir... Donc, le diamètre. Et après, on va avoir la longueur du tuyau. Là, ça va être, en fait, le temps, en fait, qu'il va nous falloir pour traiter ces données-là. Donc, la performance, en fait, c'est avoir un tuyau hyper large, le plus court possible. Voilà. Et là, c'est le top de la performance. Et donc, plus on a un tuyau hyper long, plus on va avoir de la latence. Et donc, il existe plusieurs méthodes. Pourquoi tu rigoles ?
Non. Non, ça pourrait être déformé.
Oui, ok.
Non, par contre, ouais, quand tu parles de longueur de tuyau, on parle d'être au plus proche de l'utilisateur ou au plus proche du... Donc là, on parle de...
Alors,
de
en fait...
Non, c'est ça que tu veux dire ou...
Alors, non, en fait, le concept de longueur, en fait, ça va être la latence entre le moment où il fait une action et de réaction. Donc, potentiellement, en fait, ce qui va pouvoir rentrer en compte, en clair, ça va être... Par exemple, chaque opération, une inscription à l'ADB, ton queue, l'envoi de ton email, tout ça, en fait, ça va prendre du temps. Et donc, c'est la somme de toutes ces actions qui va faire que cette action être lente. Donc ça, c'est un premier moyen, en fait, de réduire ta latence. En fait, c'est de réduire la charge entre chaque opération. Donc, c'est-à-dire que tu prends chaque opération et tu l'optimises. Par exemple, l'envoi d'email, est-ce que tu peux le différer ? Oui, tu peux le mettre sur une queue. Est-ce que la transformation de ta vidéo, tu peux la mettre sur une queue ? Oui, donc tu la mets sur une queue. Est-ce que ton enregistrement de la DB, en DB, tu veux le faire avant de lui envoyer la réponse ? Bah oui, en fait, tu veux être sûr que quand tu lui dis oui, c'est bon, que toi, tu l'as bien enregistré. Donc ça, tu ne peux pas le différer. Ok. Est-ce que sur ta DB, est-ce que tu lui demandes de retourner taquet d'informations ou tu lui dis juste c'est bon, c'est pas bon ? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas ? Et en fait, c'est un premier moyen d'optimiser cette latence. En fait, c'est de réduire la charge par opération. Via toutes les techniques qu'on a pu évoquer. Et après, un autre moyen de réduire cette latence, c'est réduire le temps d'exécution de chaque tâche. Par exemple, un exemple typique qu'on connaît tous, c'est une requête à l'ADB, ça prend du temps. Si j'ai 50 fois cette même requête, je vais calculer 50 fois. Bah, je vais pouvoir la mettre en cache. Donc là, au lieu d'avoir, on va dire, 50 millisecondes de calcul, là, je vais avoir que 10 millisecondes parce que, en fait, je l'ai cachée. Donc, j'ai mis un système de cache, ce qui va me permettre, en fait, d'augmenter ma vitesse d'exécution de cette requête-là. Et donc, par mathématiques, en fait, je vais réduire cette latence. Tu vois ?
Ouais. Oui, tu peux très bien... Tu peux mettre en cache, ne serait-ce que dans l'application front, ne serait-ce que si la requête est exécutée plusieurs fois, tu gardes le premier résultat, et puis voilà, quoi. Sans faire d'appel réseau, d'ailleurs.
Exactement. Donc, tu vas... En fait, le concept sous-jacent, c'est vraiment réduire le temps d'exécution d'une seule tâche.
Ouais.
De la même manière, en fait, un autre exemple possible, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Next, Nuxt fait la même chose. C'est on va chunker en fait les parties de JS de chaque page, ce qui fait qu'on va lui envoyer, on va en fait à chaque appel, en fait, on va envoyer uniquement la page, ce qui fait que on est venu découper. Et on récupère les informations de la page au fur et à mesure de notre navigation. Ce qui fait que le temps de chargement de la page est beaucoup plus minime. Et donc, on est venu optimiser le temps de chaque requête. Donc, ça, c'est un premier
moyen. Si tu mets en cache les éléments, l'image et compagnie, tu t'évites des appels aussi au serveur. Et donc, tu évites d'encombrer ton serveur pour toujours les mêmes requêtes.
Exactement. Évidemment. Exactement. Et le dernier point, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, c'était en fait cette notion de réseau, de transport de réseau sur notre réseau. Ouais. En fait, comment on va optimiser si en fait j'ai un CDN qui est aux États-Unis, j'ai ma DB qui est à Hong Kong et j'ai mon serveur qui est en Europe. Tout ça, ça va être compliqué, tu vois. En plus, moi, j'ai utilisé des DNS différents. Donc, des noms de domaine différents. Donc, il va falloir déjà, je vais avoir une latence juste parce que je vais avoir un nom de DNS. Donc, comment je vais structurer mon réseau au sein de mes DNS, au sein de mes machines, au sein de mon écosystème, en fait, pour que ça puisse être hyper rapide. Est-ce que j'utilise des CDN spécifiques pour les images qui sont vraiment optimisées et hyper rapides? Et est-ce que je vais mettre ça sur des data centers régionalisés? C'est-à-dire quand la personne vit en Europe, toutes les infos sont en Europe. Et est-ce que ça vient aux États-Unis? Et je vais répliquer ces informations-là aux États-Unis pour éviter d'avoir à traverser l'océan à chaque fois. Donc, c'est vraiment cette notion de transport, de réduire le transport de données en essayant de jouer au plus proche de l'utilisateur.
Ouais, ça, c'est... De toute façon, tu le fais au début quand tu poses des questions et que tu vois ton client où sont situés ses utilisateurs. Si tu as des utilisateurs... Si c'est un client français qui a des utilisateurs que en France, ça ne sert à rien de répliquer ou d'aller chercher un serveur aux États-Unis. Tu le prends en France, machin, ou au plus proche, en tout cas, AWS et Francfort ou Londres, je crois, si je ne me trompe pas. Après, par contre, oui, si ton client a des... Moi, j'ai un client qui a des différents sites portugais, etc. Donc, on essaie on utilise Cloudflare devant pour essayer d'avoir des trucs au plus proche, etc. Donc, voilà, parce que oui, effectivement, les latences peuvent vraiment augmenter fortement. Si tu as quelqu'un qui est au Brésil et qui se connecte sur un serveur qui est en Suisse, quoi, par exemple. Mais ça, nous, on ne le voit pas, mais ça se ressent vraiment très fortement sur l'utilisateur.
Bien sûr.
Ça dépend du besoin. Quoi.
Et aujourd'hui, tu vois, tu as évoqué Cloudflare, mais aujourd'hui, tu as des systèmes de workers qui vont être répliqués un peu partout. Et donc, tu vas pouvoir exécuter du JS au plus proche de l'utilisateur et donc en fait ton runtime, donc vraiment l'exécution de ton code se fait au plus proche de ton utilisateur pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode qui doit commencer à dater un petit peu, mais c'était un épisode sur le edge computing. C'est quoi ce délire?
Oui.
Là,
ouais, c'est vrai.
T'as vu, il date cet épisode là mais en fait l'idée c'est d'aller exécuter l'information au plus proche de l'utilisateur. Et aujourd'hui on est même passé en fait, à des services type Turso ou comme Cloudflare en Day One, qui sont en fait du SQLite, mais ça va être répliqué au plus proche, quoi. Donc, c'est vraiment l'exécution de ton code et la base de données va être au plus proche de ton utilisateur. Et ça, en fait, ça va te permettre d'augmenter en fait ta performance et donc de réduire cette latence. Donc, si tu as bien fait ton job, tu viens optimiser le nombre d'informations que tu peux traiter en parallèle. Tu viens optimiser chaque action et tu la répliques et tu mets ça au bon endroit pour que ça soit rapide. Et cette notion de performance est totalement taclée, quoi. Même si c'est jamais simple que ça, on est bien d'accord.
Non, c'est pas aussi simple. Et puis attention, parce que souvent, on peut prendre des offres gratuites ou très très basses en prix. sur certains providers où on n'a pas trop le choix au niveau des localisations des serveurs, et c'est un peu dommage quoi, des fois, d'avoir un serveur très loin quand tu l'utilises en France. Voilà, faites attention à ça aussi, c'est important quoi.
Et malheureusement, au départ, c'est jamais cher. Par contre, la scalabilité peut vite te coûter très, très cher.
D'où oui, l'importance, aussi, en fait. On n'en parle pas du budget, mais c'est quelque chose à anticiper. Ouais. Ouais, parce que tu vois, par exemple, sur AWS, c'est connu pour avoir du mal. On peut très difficilement calculer le coût qui va venir. Donc, c'est bien d'arriver à savoir le coût, tout ça, même pour le client, tout ça, parce que c'est vrai que si on a beaucoup de visites et qu'on a beaucoup de... Ça se scale beaucoup, ça peut coûter très, 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 très cher. Donc, ça, c'est des trucs à prévoir, c'est clair.
Exactement. D'où l'intérêt, en fait, potentiel sur toute cette partie non fonctionnelle. Le troisième volet, c'est vraiment essayer de garder de la disponibilité. Et, et donc, dans cette disponibilité, bah, c'est si j'ai 100 personnes qui se connectent en même temps, combien de personnes vont avoir une 200, un succès quoi. Et donc, ça, c'est hyper important d'avoir ce type d'informations-là. Donc, ça veut dire que bah, on est obligé de monitorer. Ça me paraît hyper indispensable. Et souvent, ouais. Il y a un standard qui est utilisé, ce qu'on voit en fait, qui est le Service Level Agreement ou... Et c'est là, exactement. Avec les standards et le vocabulaire utilisé, c'est combien de 9 en clair. Donc, tu as 99%. Et en fait, ce qui est petite anecdote, mais quand le client, tu lui dis, bah voilà, le but, c'est d'être à 99,9. Donc, 3,9, ça, c'est le standard, 3,9. Et là, il te dit ouais, non, c'est bien. Alors, mais bien sûr, c'est largement suffisant. Bon, c'est largement suffisant. Mais déjà, juste 1% dans l'année, ça veut quand même dire 3,6 jours. Donc, ça fait 80, ouais. Je ne sais plus combien de tête, je ne me rappelle plus, mais plus de 85 heures. Et là, tout de suite, le client, il te regarde et il dit « Ah ouais, mais là, ah ouais, quand même, ouais, ça fait beaucoup, quoi. » Tu vois. Et donc, en fait, le but, c'est d'aller augmenter son nombre de 9, en fait, pour en fait, avoir 99,9999 pour se tendre vers ce 100% qui est une utopie totale, parce que tu as
ouais, ça n'existe pas.
Exactement. Mais en fait, mettre en corrélation, pour reprendre notre exemple du e-commerce avec 3 huiles essentielles pour le petit shop du coin, si lui, son site est par terre pendant 12 heures ou une journée, c'est pas bien grave. Par contre, un entrepôt qui gère 50 000 références et qui tombe par terre sur une journée pré-Noël, juste avant Noël, ou un e-commerce qui tombe par terre pendant les soldes.
Black Friday.
Là, c'est pas la même. Là, c'est pas
du tout. Là, tu vas passer un mauvais quart d'heure.
D'où l'intérêt, en fait, de bien comprendre ce concept de SLA, donc de triple neuf, de quatre neuf, cinq neuf, et de monitorer, en fait, toutes ces informations-là. Et il y a même aujourd'hui des frameworks qui te permettent, en fait, de pouvoir tester cette charge serveur, en fait, de dire, OK, je vais exécuter 1000 requêtes en simultané et combien de pourcentages vont avoir un succès. C'est un petit framework qui s'appelle K6 qui marche plutôt bien, et tu vas pouvoir tester ta charge serveur. Donc c'est plutôt plutôt intéressant.
Ouais, il y en a plein.
Ouais, après il y en a sans doute d'autres pour le coup.
En ligne de commande, tout ça.
C'est celui que moi perso j'utilise, ouais. Mais évidemment il va falloir qu'on mette en place un système de bugs, tu vois, de remontée d'informations, parce que bah on va pas si on a des bugs, si on attend que notre utilisateur nous envoie un petit mail en disant « J'ai voulu faire ça et en fait, ça n'a pas marché, tout ça. » Ça n'arrivera jamais. Personne ne le fera. Donc, non, on n'aura pas l'info. Non. Et commercialement, c'est hyper intéressant aussi, ouais. En fait, de si ton client t'envoie l'information en disant « Oui, on a notifié qu'il y avait un bug. » Et là, tu dis « Oui, effectivement, ce bug a commencé à tel jour, à telle heure. Il a été fixé par tel commit à telle heure et il a été déployé. » Et bah ça, en fait, commercialement, c'est super bon, quoi. Donc, ouais. Être en avance en fait sur les remontées clientes, ça c'est super super intéressant. Autre okay. point qui peut être intéressant aussi à mettre en place pour aller justement aller chercher à optimiser cette performance, c'est ce concept de tracing en fait où aujourd'hui on a des outils qui nous permettent en fait de voir entre le moment où la requête est arrivée sur notre serveur et la requête est partie, toutes les étapes sur lesquelles il y a eu le goulot d'étranglement. On va pas revenir sur sur l'épisode qu'on a fait sur les logs, mais en tout cas, c'est un type de log qui peut être super intéressant. Ouais. Et je m'excuse d'avance pour le mot que je vais utiliser qui fait bondir Patrick, mais c'est le grand concept, c'est l'observabilité.
Bah.
on sait que t'aimes pas ce genre d'infos.
Alors, je reviens. L'art de loguer, c'était l'épisode 115. C'était en juillet 2025. Donc, c'est vraiment pas vieux, quoi. Si vous voulez l'écouter, si vous l'avez pas encore écouté.
Exactement.
Voilà. Et on en parle d'ailleurs de l'observabilité, je crois.
On en parle parce que il faut en parler. Mais ouais. En tout cas, sur une architecture, si on veut passer à l'échelle, ça me paraît difficile de faire sans, de ne pas loguer. On est au petit bonheur la chance, quoi. C'est vraiment.
T'es obligé de savoir ce qui se passe dans ton app de toute façon. Puis voilà. Justement, tu es obligé de savoir tout ce qui se passe, combien de temps ça prend, tout ça. Et optimiser le code, tout ça, c'est une obligation. Quoi. Surtout si tu as des ambitions.
Clairement. Une fois de plus, c'est vraiment le business qui va déterminer, tout ça. Et il n'y a pas de recette magique en mode ce pattern-là, il marche partout, tout le temps. Ben non, en fait, ça dépend. On a essayé de brosser de manière très très large et de manière très globale. Si on se pose toutes ces questions-là et si on découple de telle manière que on respecte toutes ces best practices, analyse de qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui est non fonctionnel, qu'est-ce qui est du transport, qu'est-ce qui est du stockage, qu'est-ce qui est de la transformation. Si on arrive à découpler toute notre application avec ces grands principes-là, clairement, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper. Ça sera à nous de composer la stack technique pure en disant là, on va mettre du Sentry, là, on va mettre une DB Postgre, là, on va mettre du Redis, là, on va mettre du Laravel Echo, là, on va mettre du PHP, là, on va mettre un microservice, là, on va faire du monolithique. Voilà, ça après, il y a d'autres contraintes qui vont rentrer en jeu. Par contre, sur l'architecture fonctionnelle, non fonctionnelle, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et si on respecte les grands concepts généraux qu'on a évoqués, je pense qu'on ne peut pas se tromper.
Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est bon pour tous les projets, que ce soit des petits projets ou gros projets ambitieux, tout ça. Voilà, se poser, réfléchir, le besoin, comment ça va s'architecturer. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment une étape à faire à chaque fois, en fait.
C'est un prérequis.
Avant de se lancer dans le code, tu vois.
Exactement.
On est devenu mûr, t'as vu. On est,
on est des vieux cons, Patrick. On est des vieux cons.
Réfléchis avant de coder, t'as vu, c'est fou, quoi.
Yes. Écoute, Patrick, je te propose qu'on en reste là sur cet épisode architecture logicielle. On remercie tous ceux qui sont restés là jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir.
Épisode on remercie théorique.
Un grand merci à tous nos sponsors qui le font via GitHub Sponsor et à tous ceux qui prêchent la bonne parole et qui font la promotion pour nous de double slash. On vous dit à très vite. Ciao, ciao.
Ciao.